Les cours du Collège de France, François Recanati, chaire philosophie du langage et de l'esprit.
La dernière fois, j'ai évoqué le contraste entre deux conceptions à propos des concepts. Une conception qui est d'emblée sociale et pour laquelle les concepts font partie de l'environnement culturel, un peu comme les mots, c'est des choses qu'on acquiert et qui sont fondamentalement des réalités sociales, qu'on acquiert d'ailleurs en grande partie grâce au langage, grâce aux mots qui font également partie de cette réalité sociale. Donc ça, c'est une conception qui est très répandue parce que la plupart des philosophes considèrent les concepts comme des réalités supra-individuelles. Et j'ai mentionné la dernière fois, enfin, parmi les gens qui défendent cette conception, il y a Sainsbury et Tai, dont j'avais cité l'ouvrage pour d'autres raisons, mais ils insistent sur cette dimension sociale des concepts. Mais il y a une autre conception, je l'avais illustrée, j'avais mentionné le fait que parmi les tenants de l'autre conception, il y a notamment Ruth Millichan et David Papineau. David Papineau qui nous a parlé et présenté sa conception des concepts ici même au mois de novembre. Il a fait une série de conférences. Donc selon eux et selon moi, les concepts sont une réalité avant tout, parce qu'il ne s'agit pas de nier l'autre dimension. Il y a deux dimensions, il faut rendre compte des deux de toute façon. Mais les deux approches dont je parle font d'une dimension ou de l'autre leur point de départ, la chose qui est fondamentale. Donc pour des gens comme Sainsbury et Tice, ce qui compte, c'est la dimension sociale. Alors que dans l'autre conception, donc celle que défendent Millichan et Papineau et que je défends moi-même, les concepts sont avant tout une réalité psychologique individuelle. Donc ce n'est pas supra-individuel, c'est individuel, c'est quelque chose dans la tête. Donc j'ai mes concepts et puis vous avez les vôtres, c'est ça l'idée. Les concepts, dans cette perspective, la perspective que moi je vous ai présentée, sont indissociables de ce qu'on pourrait appeler l'encyclopédie mentale. Nous avons tous une sorte d'encyclopédie mentale qui nous permet de nous représenter le monde et tout ce que le monde contient. Et donc, dans cette encyclopédie mentale, il y a des entrées, comme dans une encyclopédie, vous avez des entrées distinctes sur différentes choses, et les entrées de l'encyclopédie mentale correspondent aux concepts, aux dossiers mentaux dont je vous ai parlé. Donc nous avons un dossier mental sur les tigres, pour reprendre l'exemple que j'ai utilisé, un dossier mental sur Emmanuel Macron, un dossier mental sur l'arthrite, et ce sont autant de concepts. Et ces concepts, ce sont donc des réalités psychologiques individuelles. J'ai mon concept d'arthrite, vous avez votre concept d'arthrite. L'encyclopédie mentale dans son ensemble est constituée par un réseau complexe de dossiers mentaux, organisés suivant certaines relations. Et ça ne nous retient pas ici. Alors évidemment, la difficulté dans cette conception consiste à rendre compte du fait que les concepts ne sont pas seulement quelque chose d'individuel en ce sens, les concepts sont partagés. Et c'est très très important que les concepts soient partagés. Parce qu'il n'y aurait pas... Il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas si les concepts n'étaient pas partagés. En particulier dans la communication linguistique dont nous parlons, il y a une forme de partage des concepts qui se fait simplement dans la mesure où celui qui parle, en parlant, il exprime sa pensée. Donc il a une certaine pensée, il l'exprime par sa parole, et celui qui l'entend et qui connaît le langage comprend ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il arrive lui-même à former une pensée qui correspond à la pensée du locuteur. Et on peut donc dire qu'en un certain sens, les pensées sont partagées. Alors comme je disais, dans la conception individualiste, ce n'est pas un sens littéral, parce que littéralement, les pensées sont dans la tête de l'un et de l'autre. Les pensées ne peuvent pas littéralement être partagées. En revanche, il y a, en un sens plus large, partage des pensées, parce que les pensées se trouvent être... Il y a une pensée dans l'esprit du locuteur, une pensée dans l'esprit de l'interlocuteur, et il y a une certaine relation entre elles, une certaine correspondance, une certaine coordination qui fait qu'on peut considérer que les pensées sont partagées, c'est-à-dire que les deux pensées qui se trouvent instanciées dans l'esprit de chacun des participants à l'échange communicatif, ces pensées sont bien, en un certain sens, la même pensée, mais non pas en un sens littéral, parce que les pensées sont dans l'esprit des penseurs individuels, mais en un sens où il y a une équivalence entre ces pensées. Et si les pensées sont partagées, alors les concepts sont partagés, car les concepts, c'est les constituants des pensées. Si vous partagez une pensée avec quelqu'un, à travers la communication linguistique, vous faites en sorte que l'autre pense la même chose que vous pensez vous, ou que vous avez exprimé, en tout cas qu'il se représente la même chose, la pensée en question, elle est formée de concepts, donc il est nécessaire que l'autre aussi mobilise les mêmes concepts. Donc les concepts doivent être partagés, tout comme les pensées doivent être partagées, en ce sens, encore une fois, généreux de partager, où il ne s'agit pas vraiment que ce soit les mêmes pensées, mais qu'il y ait entre elles la bonne relation qui permet de dire qu'en un certain sens, c'est quand même la même pensée. Mais précisément, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'expliquer ce que c'est que cette relation entre deux pensées ou entre deux concepts qui appartenant à des personnes différentes, cette relation qui fait qu'on peut dire que les concepts en question ou les pensées en question sont partagées. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'on ait cette relation-là ? En quoi consiste la relation en question ? Donc la dernière fois, j'ai présenté simplement de façon abstraite l'idée qu'il y a une certaine relation R, une relation d'équivalence entre des concepts ou entre des pensées en tant que réalité individuelle, relation d'équivalence qui est telle que quand deux concepts sont dans cette relation-là, ou deux pensées sont dans cette relation-là, on peut dire qu'il s'agit de la même pensée au sens social de pensée, si vous voulez. Donc, on a besoin de donner des précisions sur la nature de la relation d'équivalence dont il est question. Et ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai évoquer donc le problème, et j'ai fait une première hypothèse qui est assez attirante concernant la relation en question. Une hypothèse attirante dans la mesure où ce qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle de partage des pensées ou de partage des concepts, c'est la communication linguistique. C'est le fait que dans la communication, on partage les pensées. On exprime une pensée et l'autre qui nous comprend, il accède à cette même pensée. Accéder à cette même pensée, ça ne veut pas dire que l'interlocuteur nous croit si nous lui disons quelque chose. Mais ça veut dire au moins qu'il va comprendre ce qu'on lui dit, il va former la pensée. Et éventuellement, il peut très bien la rejeter s'il ne nous croit pas. Et dans le cas d'une parole qui vise à transmettre une information. Donc le rôle de la communication linguistique dans cette affaire de partage des pensées est tel que une hypothèse, donc, comme je disais, attirante sur la nature de la relation d'équivalence qui rend ce partage possible, une hypothèse attirante consiste précisément à faire intervenir le langage et à dire que la relation R, c'est le fait que les dossiers mentaux, car maintenant revenons aux concepts qui sont les constituants des pensées, partage des concepts, donc les concepts sont des dossiers mentaux, il y a un certain dossier mental dans l'esprit de celui qui parle dans la communication et celui qui l'interprète, celui qui comprend ce qu'il dit, va lui-même associer un certain dossier mental à sa compréhension. Et ces deux dossiers mentaux, pour autant que les deux se comprennent et forment effectivement la même pensée et déploient le même concept, et bien ces deux concepts, ces deux dossiers mentaux vont se trouver dans la bonne relation. Et quelle est la bonne relation ? On pourrait penser que la bonne relation, c'est le fait que les dossiers mentaux en question soient associés l'un à l'autre en tant qu'élément d'un système de dossiers mentaux interconnectés et ou d'un réseau de dossiers mentaux interconnectés et interconnectés grâce précisément à la communication linguistique. Car dans la communication linguistique, il y a ce qu'on appelle les chaînes communicatives. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose, par exemple, ou qui connaît l'existence d'un certain objet, qui a lui-même un dossier mental sur cet objet, où il a des informations, et il en parle à quelqu'un d'autre. L'autre personne à qui il en parle ne possède pas de dossier mental sur cet objet, ignore l'existence de cet objet, ou ne possède pas les informations en question. Mais à cause de la communication, la deuxième personne va former, va ouvrir un dossier mental pour y mettre les informations que la communication lui fournit à propos de cet objet. Donc on lui dit, il y a, enfin, ça peut être n'importe quoi, l'existence d'un restaurant qui fait tel ou tel plat, etc. Donc quelqu'un en parle à quelqu'un d'autre, Et la deuxième personne ouvre son dossier mental sur ce restaurant, quand bien même il n'a jamais vu le restaurant, il n'a jamais mangé, mais ce n'est pas important parce que quelqu'un lui en parle. Et le fait que quelqu'un lui en parle, c'est une relation suffisamment pertinente au restaurant en question, dont on présume qu'effectivement il existe, puisqu'on nous en parle, une relation suffisamment porteuse d'informations, puisque précisément dans la communication, on apprend des choses sur le restaurant en question. Donc c'est le genre de relation qui permet effectivement d'ouvrir un dossier mental pour y mettre ces informations que l'on acquiert par la communication sur le restaurant en question. Donc vous avez la première personne qui connaît de première main le restaurant, il y est allé, il a fait une certaine expérience, il a son propre dossier mental avec ses informations, et il en parle à quelqu'un d'autre. L'autre personne qui, lui, n'a pas vu le restaurant, n'y est pas allé, n'en a pas fait l'expérience, néanmoins, on lui en parle, et donc il ouvre aussi un dossier mental, il y met les informations qui lui parviennent par la communication, et au final, les deux ont chacun un dossier mental où se trouvent notamment les informations que le premier a acquis par l'expérience directe et que le second a acquis indirectement par la communication. Et donc ça fait une chaîne parce qu'il y a un premier dossier mental qui a été ouvert, la communication conduit à l'ouverture d'un deuxième dossier mental coordonné sur le même objet, et ça peut continuer, c'est-à-dire que la deuxième personne peut encore en parler à d'autres, etc. Et l'idée c'est que, et là on n'a même pas parlé encore de l'emploi des noms, mais quand vous donnez un mot, par exemple si je vous avais donné l'exemple que j'avais pris la dernière fois, c'était l'exemple d'un chat sans queue que je croise en sortant de chez moi, que je vois, donc un chat bizarre, donc j'ouvre un dossier mental à son sujet et j'en parle à d'autres. Et j'avais dit, dans ce cas-là, je peux aussi le nommer, l'appeler sans queue et ensuite en parler en employant ce nom à d'autres, etc. Un nom est quelque chose qui est associé à un dossier mental, mais chaque personne qui emploie le nom associe le nom à son dossier mental sur la chose dont il est question. Et un nom sert précisément à interconnecter tout un ensemble de dossiers mentaux qui existent dans l'esprit de différentes personnes. Tous ces dossiers vont être connectés à travers le même mot, le même nom que chacun emploie. Mais la communication fonctionne même si vous n'avez pas des mots particuliers, hein, si vous n'utilisez pas des mots spécifiques ou des noms. En tout cas, cette idée de chaîne communicative, c'est l'idée que les concepts, les dossiers mentaux, se transmettent par propagation le long des chaînes communicatives. Et donc, on peut très bien faire la différence entre le cas où deux dossiers mentaux de deux personnes différentes se trouvent faire partie du même réseau communicatif. Je vous avais dit que la notion de chaîne est trop simple, c'est une notion de réseau qu'il faut, parce qu'en fait, il y a plein de chaînes différentes qui s'entrecroisent. Donc ce sont plutôt des réseaux, mais des réseaux qui ont tous la même origine en général, qui se ramènent à un point de départ donné, qui est toujours l'ouverture par quelqu'un d'un dossier mental sur un objet donné, et ensuite ça se propage et ça fait un réseau. Et donc l'idée que deux dossiers mentaux distincts, deux personnes distinctes peuvent se trouver, se faire partie du même réseau typiquement rendu possible par l'existence d'un mot, par exemple, qui sert à interconnecter tous les dossiers mentaux en question, mais encore une fois, ce n'est pas une condition nécessaire. Donc on pourrait penser que cette relation-là, faire partie du même réseau, être co-impliqué dans un réseau communicatif, c'est ça qui fait que deux dossiers mentaux tombent bien dans la même classe d'équivalence. Ce sont, en un sens, le même concept, parce que, effectivement, grâce à ce réseau communicatif, la possibilité du partage est établie. Il y a c'est pas un vrai partage au sens littéral, encore une fois, c'est plutôt une coordination des dossiers mentaux à travers ces chaînes communicatives. Et on peut penser que cette coordination, c'est ça qui fait qu'on peut parler de partage de concepts, parce qu'il y a la bonne coordination, donc la bonne relation d'équivalence. Donc j'ai proposé cela, et je pense que cette idée est une idée, cette idée que il y a cette notion de réseaux de dossiers mentaux interconnectés, et notamment interconnectés grâce aux mots du langage public. L'idée notamment que le langage public sert entre autres à ça, à interconnecter les dossiers mentaux dans l'esprit des différentes personnes en jeu. C'est une idée importante et je pense qu'on en a besoin notamment si on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le sens d'un mot, parce que ça c'est encore une autre question dont je ne traite pas ici du tout, mais on ne doit pas considérer ça comme quelque chose de primitif, la notion du sens d'un mot. Ce qui, dans ma perspective, ce qui vient d'abord, ce sont à nouveau les réalités psychologiques individuelles, ce sont les représentations mentales dans l'esprit des gens, les dossiers mentaux. Et les mots, quand vous employez un mot, quand vous comprenez un mot, vous associez à ce mot un certain dossier mental, c'est la façon dont vous comprenez, au moins dans le contexte où vous êtes. Et je pense que la notion de sens d'un mot doit elle-même être caractérisée à partir de là, à partir de, évidemment, pas seulement du dossier mental qu'utilise la personne qui emploie le mot ou la personne qui le comprend, c'est quelque chose qui est trop individuel. On a besoin d'une notion beaucoup plus abstraite pour définir le sens d'un mot. Et justement, la bonne notion, peut-être, viendra de cette idée qu'il y a un réseau de dossiers mentaux interconnectés et que c'est peut-être le sens d'un mot, c'est peut-être quelque chose comme cela. Mais encore une fois, je ne vais pas aller dans cette voie, je vous indique simplement que cette idée n'est pas du tout inutile, cette idée de réseau de dossiers mentaux interconnectés. C'est pas du tout inutile, mais je ne pense pas que ce soit la notion dont nous avons besoin maintenant, c'est ce que je dis la dernière fois, pour fonder l'idée de partage des concepts ou de partage des pensées. Et la raison, j'ai été très rapidement la dernière fois quand j'ai fait allusion à ce problème, la raison pour laquelle je ne pense pas que ce soit la bonne théorie du partage des concepts, l'idée que les concepts sont interconnectés dans un système qui repose notamment sur l'emploi du langage, la raison pour laquelle ce n'est pas la bonne théorie, c'est que le partage des concepts, selon moi, ne se limite pas au cas où il y a de la communication linguistique. Donc ce sont évidemment, comme je l'ai dit, des cas très très importants. Ce sont les cas paradigmatiques du partage des pensées et des concepts. On parle, donc on exprime des pensées, les autres nous comprennent, et donc il faut bien qu'il y ait du partage de pensées et donc du partage de concepts. C'est fondamental, c'est paradigmatique, mais ça n'est pas tout ce qu'il y a. Le partage des concepts, ça va au-delà. Et ça, c'est pas complètement évident, mais c'est mon argument. Parce que ça va au-delà, parce que même s'il n'y a pas de communication linguistique, même si vous n'avez pas de langage commun, ça n'empêche pas que vous pouvez partager des concepts avec ces aliens. Imaginez des aliens complets, pas de langage commun, rien, etc. Ça n'empêche pas, en principe, un certain degré de compréhension et de partage conceptuel. Et peut-être que je dois en dire un peu plus, parce que ça, c'est plus ou moins ce que j'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est assez mystérieux. En fait, je pense qu'il y a deux choses distinctes qui, toutes deux, impliquent le partage des concepts. Et une notion intuitive de compréhension. Parce qu'après tout, comprendre quelqu'un, on peut le voir ça comme une façon de partage d'une perspective interne, dans le partage de pensée. Il y a d'abord donc la communication linguistique. Quelqu'un dit quelque chose, vous comprenez ce qu'il vous dit, donc il exprime une pensée, vous formez cette pensée ou quelque chose qui est dans une équivalence, une relation d'équivalence avec cette pensée. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi, et ça c'est une situation symétrique au sens où quand vous parlez à quelqu'un, ben, vous avez ces deux personnages en situation d'interaction linguistique. Il y en a un qui est le locuteur, l'autre l'auditeur, mais ils échangent les rôles dans la communication, l'auditeur devient le locuteur, etc. Mais il y a une autre situation qui est distincte de la situation de communication linguistique et qui est asymétrique, c'est ce que j'appellerais l'interprétation, non pas la communication, mais l'interprétation. Quand quelqu'un interprète quelqu'un d'autre, ce n'est pas la même chose de quand quelqu'un communique avec quelqu'un d'autre, quand quelqu'un interprète quelqu'un d'autre, il essaie de comprendre l'autre et, par exemple, il lui attribue des pensées. Interpréter quelqu'un, c'est simplement, vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, par exemple. Vous essayez de comprendre ce qu'il fait, donc vous essayez de lui attribuer certaines intentions. Et les intentions, c'est un cas particulier, mais de façon générale, vous pouvez, et c'est ce qu'on fait avec nos congénères tout le temps, de leur attribuer des pensées, des croyances, des désirs, etc. Donc on fait ça absolument tout le temps, mais on peut aussi faire ça avec des aliens, si on ou simplement des animaux, on regarde ce qu'ils font aussi, on leur attribue plus ou moins certains états mentaux, des croyances, des désirs aussi. On fait ça sans cesse, de l'attribution. Et dans l'attribution, je dis que c'est asymétrique parce que il y a une personne qui interprète quelqu'un d'autre, mais ça n'implique pas une interaction. Ça va dans un seul sens. Et vous pouvez interpréter des êtres avec lesquels vous ne pouvez pas interagir, parce que, par exemple, ils sont morts il y a 5000 ans. Ça n'empêche pas de les interpréter. Puis ici, au Collège de France, il y a des gens dont c'est le métier, disons, d'interpréter précisément des gens qui sont morts il y a 5000 ans. Donc, on peut faire ça. Pas d'interaction, comme dans la communication. La communication, c'est de l'interaction. Non, c'est de l'interaction. La communication paradigmatique, parce que c'est la communication en face à face, effectivement, avec l'échange des rôles communicatifs, le locuteur qui devient auditeur et l'auditeur qui devient locuteur. C'est vrai que la communication marche aussi à distance et même à longue distance, car vous lisez des livres qui ont été écrits il y a très très longtemps. Et donc, on peut peut-être trouver des cas, une sorte de continuum, on peut, entre la communication et l'interprétation. Mais en tout cas, ce qui compte, ce que je suis en train de dire, c'est que dans l'interprétation, on a cette possibilité au moins d'attribuer des pensées à autrui sans qu'il y ait la moindre possibilité d'interaction avec ce autrui. Et même, et c'est là que c'est différent du cas où on lit un livre qui a été écrit il y a très très longtemps, on peut interpréter des gens avec lesquels on ne possède aucun langage commun. Donc là, il ne s'agit pas de dire que ces gens-là ont écrit des livres et nous, on les lit maintenant. Parce que ça implique effectivement qu'il y a c'est de la communication. S'il y a de la communication, entre les deux parties, il doit y avoir un langage commun. Mais là, je suis en train de vous parler d'interprétation. Et l'interprétation ne passe pas nécessairement par la communication linguistique. Et l'interprétation est possible en l'absence de langage commun. Il suffit que vous appreniez, je ne sais pas, peut-être par l'archéologie, ou vous découvrez certains faits au sujet de certaines populations, et ces faits, vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi, etc. Vous interprétez ces gens et vous leur attribuez des pensées. Alors, quand vous attribuez une pensée, le paradigme d'une attribution de pensée, les philosophes s'intéressent beaucoup à ces énoncés, qui rapporte les croyances et les attitudes, comme on dit. Donc vous avez une pensée comme les anciens pensaient que la Terre était plate. Dans cette représentation complexe, qui interprète, qui est une représentation visant à interpréter, en l'occurrence interpréter les anciens, en leur attribuant certaines pensées, certaines représentations, il y a une partie qui est ce que les linguistes appellent la complétive, la partie en rouge ici. Les anciens pensaient que la Terre était plate. Et puis il y a la concordance des temps qui nous complique un peu les choses, et il faut oublier la concordance des temps. Donc, la complétive exprime la pensée que vous attribuez aux anciens. Donc vous qui êtes l'attributeur, l'interprète, c'est vous, celui qui dit ça, celui qui dit ou qui pense les anciens pensaient que la Terre était plate. L'interprète, il forme une pensée complexe, la pensée que les anciens pensaient que la Terre était plate. Dans cette pensée complexe, il y a une partie, la complétive, la Terre était plate, dont le rôle, c'est d'exprimer une pensée qui correspond, qui est la pensée qu'on attribue aux anciens. Et l'attribution ou l'interprétation est correcte s'il se trouve qu'effectivement, cette pensée était une pensée des anciens. Donc, la pensée que j'attribue aux anciens ici est formée de concepts, le concept de la Terre, le concept de platitude, de concepts dont je dois moi-même qui suis l'interprète, je dois moi-même disposer de ces concepts pour attribuer cette pensée, puisque pour attribuer cette pensée, je l'exprime cette pensée. J'exprime la pensée que la Terre est plate pour l'attribuer aux anciens. Mais pour exprimer cette pensée, je dois d'abord la former, me représenter la chose, et je dois la former, cette pensée, à l'aide des concepts dont elle est constituée. Je dois donc avoir ces concepts. Donc quand j'attribue une pensée à quelqu'un, je dois moi-même disposer des concepts dont cette pensée est constituée. Ça veut dire qu'afin d'interpréter, j'ai besoin de partager les concepts que, dans l'interprétation, j'attribue à autrui. Donc le partage des concepts est quelque chose qui est présupposé par l'interprétation et pas seulement la communication linguistique. Or, comme je l'ai dit, l'interprétation est possible en l'absence de toute communication linguistique entre l'interprète et celui qui l'interprète. Et précisément parce que il y a partage des concepts dans l'interprétation et que l'interprétation ne requiert pas la communication linguistique, ben on ne peut pas analyser la notion même de partage de concepts en faisant appel à l'idée des réseaux mentaux interconnectés grâce à des mots du langage public. Parce que ça suppose que les deux parties se situent dans un même espace de communication, font partie du même réseau communicatif, sont reliés entre eux par le langage commun, peut-être reliés entre eux à très longue distance, comme dans les exemples que donnent les philosophes de chaînes communicatives, où il y a une chaîne qui démarre avec la naissance d'Aristote, on lui donne un nom, etc., puis les gens emploient ce nom pour parler de lui, ils en parlent à d'autres, et ça arrive très très longtemps après à nous. On emploie le nom Aristote, évidemment, notre lien à Aristote est beaucoup plus distant. Mais malgré tout, on fait partie quand même, on est des utilisateurs du nom, donc on fait partie de ce réseau communicatif qui s'étend dans le temps, qui démarre avec l'introduction du nom lui-même. Mais là, ce que je vous dis, c'est que l'interprétation, ça va bien au-delà de ça. On peut interpréter des sujets avec lesquels nous n'entretenons aucune forme d'interaction communicative, même à longue distance. C'est pour ça que je parlais d'alien complet ou de... Enfin, donc on peut, si on veut, certainement développer un exemple de ce genre pour faire valoir à quel point on n'a pas de relation d'interaction, même à longue distance, avec ces gens qu'on est quand même capable d'interpréter. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut avoir du partage de concepts, même dans des situations-là, et donc on ne peut pas réduire le partage des concepts à une affaire qui fait intervenir le langage d'une façon ou d'une autre. Donc on a besoin de trouver une autre base pour la relation d'équivalence qui fonde la notion de concept partagé. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver ? Ben, j'ai une hypothèse à proposer, mais qui va surprendre, parce que... Surprendre par on pourrait dire, sa candeur et sa simplicité, mais aussi son caractère manifestement, en apparence, non pertinent, parce que cette idée que je vais présenter... C'est comme si elle troquait ce que nous cherchons, c'est l'idée de partage de concepts. Elle remplaçait ça par quelque chose de beaucoup plus simple à obtenir, mais qui semble ne pas du tout être ce que nous cherchons. Et non seulement pas du tout ce que nous cherchons, mais même ce que nous avons déjà rejeté dans le passé, mais rejeté quand les questions que nous posions étaient différentes. Donc l'hypothèse que je voudrais introduire, c'est une hypothèse qu'on peut appeler du même nom que la thèse que j'ai rejetée dans quelques cours précédents. On peut appeler ça l'hypothèse référentialiste, comme était référentialiste la thèse dont j'ai dit que nous devons la rejeter. La thèse référentialiste, c'était l'idée que les concepts sont individualisés par leur référence, par ce dont ils sont les concepts. Et j'ai conclu que ça ne pouvait pas être vrai, parce qu'on peut avoir des concepts distincts se rapportant à la même chose. Mais maintenant, cependant, la question maintenant est un peu différente, puisqu'on ne se demande pas qu'est-ce qui individualise un concept. On se demande qu'est-ce qui doit... Quelle relation doit-il y avoir entre les concepts de deux personnes différentes pour que ces concepts puissent être dits partagés au sens où, dans la communication, on a du partage de concepts et dans l'interprétation aussi, on a du partage de concepts. Cette notion de partage de concepts, qu'est-ce qu'elle requiert des concepts, des dossiers mentaux, de part et d'autre? Quelle relation doit-il y avoir entre eux? Et l'hypothèse que je propose, c'est une hypothèse qu'on pourrait dire déflationniste. C'est une hypothèse donc très simple qui nous dit que pour que deux sujets distincts puissent être dits partager un concept, ben il suffit que chacun de ces sujets possède un concept, un dossier mental, quelconque. On s'en fiche de quoi a l'air ce dossier mental, il suffit qu'il y en ait un, se rapportant à la même chose que celui de l'autre. Donc ce qu'on dit, c'est que la seule chose qui compte, c'est qu'il y ait bien un dossier mental dans chaque esprit, et il faut que ce soit un dossier mental qui porte sur la même chose. Et c'est tout ce dont on a besoin. C'est ça la réponse. L'idée, c'est partager un concept. C'est très facile. Il suffit d'avoir un concept sur la même chose, portant sur la même chose. Alors, quand je dis que ça semble pas très pertinent, parce que on a l'impression que ça remplace l'idée de concept partagé par l'idée de référence partagée, l'idée qu'on pense à la même chose, mais c'est pas la même chose de penser à la même chose et de penser à la même chose de la même façon. L'idée de concept correspond à cette idée d'une façon de penser à quelque chose. Précisément, il y a l'idée de mode de présentation, il n'y a pas que la référence. C'est pour ça que ça a l'air d'être pas du tout ce qu'il nous faut. Mais néanmoins, je voudrais quand même défendre ce point de vue. Et d'abord, préciser évidemment une restriction qui est visible ici sur la diapo. C'est que quand on dit que ça suffit pour le partage des concepts, tel qu'il est à l'œuvre dans la communication ou dans l'interprétation, quand on dit que ça suffit, ce n'est pas vrai dans l'absolu, ça suffit dans les cas normaux. Et donc la stratégie ici, qui est une stratégie qui est employée parfois dans la littérature sur ces questions, consiste à diviser pour régner en quelque sorte. Ça consiste à dire qu'il y a une catégorie de cas qui sont les cas normaux. On va faire la théorie des cas normaux, ça se passe comme ça dans les cas normaux, et ensuite on va se préoccuper des cas qui ne sont pas normaux. Et bon, là c'est plus compliqué, mais c'est déjà pas mal si on a une théorie des cas normaux, parce qu'après tout, les cas normaux, ils sont normaux. Donc si on arrive à en rendre compte, on arrive à rendre compte de la façon dont normalement les choses se passent. Et donc, maintenant je voudrais dire ce que sont ces cas normaux. Et les cas normaux, selon moi, ce sont les cas où quelque chose que j'appelle la norme straussonienne, la norme straussonienne qui est dans le titre de mon cours d'aujourd'hui, ça vient du philosophe Peter Strawson, qui est Strawson, un des introducteurs de l'idée de dossier mental. Ce que disait Strawson, c'est que il doit y avoir une correspondance entre les dossiers mentaux dans l'esprit d'une personne et les objets dans l'environnement de cette personne, les objets d'intérêt pour cette personne, tels que cette personne a des dossiers mentaux concernant ces objets, une correspondance un à un, c'est-à-dire que pour un objet donné, il doit y avoir un dossier mental et un seul. Il ne doit pas y avoir deux dossiers mentaux sur le même objet. Il faut, et c'est ça la norme, on doit faire en sorte dans notre encyclopédie mentale que pour chaque objet d'intérêt, il y ait un dossier mental et un seul qui concerne cet objet. Et Strawson a notamment introduit cette idée dans son traitement de ce que c'est que découvrir une identité, quand vous découvrez que deux objets sont le même. C'est à l'occasion de ses réflexions sur l'identité qu'il a introduit l'idée de dossier mental, justement. Découvrir que deux objets sont le même, selon lui, c'est pas acquérir une information sur un objet, c'est simplement s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre représentation du monde. Ça veut dire que dans notre représentation du monde, on avait deux dossiers mentaux, mais il se trouve qu'en fait, ces deux dossiers mentaux, ils portent sur la même chose, donc ça ne colle pas. Et quand on découvre une identité, nous dit Strawson, quand on découvre que deux choses sont la même, ben on doit restructurer notre encyclopédie mentale en fusionnant deux dossiers mentaux, qui, au lieu qu'ils restent distincts, on doit les fusionner, il ne doit plus y en avoir qu'un au final. Parce qu'il y a cette norme, on veut une représentation du monde qui soit transparente au sens où on doit pouvoir lire dans le système des dossiers mentaux, au moins on doit pouvoir voir le panorama des choses dont nous supposons qu'elles existent. Il doit y avoir cette correspondance entre l'ontologie, les choses dont nous pensons qu'elles existent, et puis nos représentations mentales qui sont le reflet de cela. C'est le reflet au sens où, si vous avez deux dossiers mentaux, ça implique que pour vous, il y a deux objets. Et donc, si vous apercevez qu'en fait, il n'y a qu'un seul objet, ben, vous devez justement restructurer, fusionner vos deux dossiers mentaux. Donc, il y a cette norme. Alors, les cas freudiens, dont je vous ai parlé en long et en large, sont justement des cas où il y a un seul objet, mais il y a deux dossiers mentaux. Et ce sont des cas en un sens aberrant. Ce sont des choses où ils ne devraient pas se produire. Elles se produisent, mais elles ne devraient pas se produire. Et quand, dès qu'on découvre que les deux objets sont les mêmes, on doit identifier et on doit fusionner. C'est ça la norme. La norme est également violée, non pas seulement dans les cas freudiens, mais également dans les cas de confusion, où vous avez en fait deux entités distinctes dans l'environnement, mais vous avez un seul dossier mental dans l'esprit. Et vous confondez les deux choses. Et moi, ça m'arrive assez souvent, ce genre de choses, ce genre de situation. Mais donc, c'est également de la violation de la norme straussonienne. Alors, un exemple que nous avons discuté il y a 15 jours, et j'en ai reparlé, je crois, la semaine dernière, c'est l'exemple de Pierre du Atripti, qui est un exemple, un de ces exemples de cas freudien. Dans le Pierre, souvenez-vous, c'est un français monolingue, donc il ne parle pas anglais au départ de cette histoire. Il habite en France, il a entendu parler de Londres, il sait ce qu'on sait quand on est français de Londres, donc il croit que c'est une belle ville. Et dans l'histoire de Tripty, c'est ça qui est intéressant, il lui arrive une aventure extraordinaire, il est transporté. Un beau jour, peut-être une belle nuit, peut-être, je ne sais pas. Il se trouve transporté dans des circonstances mystérieuses, hors de chez lui, transporté quelque part. Alors, le quelque part en question, ça, c'est la ville de Londres dans les représentations de Pierre. Ce qu'il a appris de Londres, il a vu peut-être des images, il a lu des récits, etc. Donc, il sait des choses sur Londres. Et il se trouve transporté nuitamment dans un endroit pas très plaisant où il est forcé de vivre pendant une partie de son existence. Et c'est pas très drôle ce qui lui arrive. Mais l'endroit où il se trouve transporté, ben, c'est Londres. Il se trouve à Londres, mais il ne le sait pas, personne ne lui a dit. Et évidemment, comme il y vit, ben, il apprend des choses sur la ville où il se trouve. Mais ce qu'il apprend, il ne faut pas oublier qu'il est monolingue. Donc lui, il a entendu parler de Londres quand il était en France. Mais maintenant qu'il y vit, il entend parler de London. Il sait que la ville où il habite, c'est London. Et donc, il ne se rend pas compte que Londres et London, c'est la même chose. Donc il a son dossier mental sur London et il avait son dossier mental sur Londres. Il a toujours son dossier mental sur Londres. Donc on continue à croire sur Londres des choses comme... le fait que c'est une belle ville, etc. Mais en même temps, il a aussi plein de croyances sur London et il a son dossier mental. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand Pierre pense à Londres à travers le premier dossier mental, il pense que c'est une belle ville. Mais quand il pense à Londres à travers le deuxième dossier mental, il pense qu'elle est, que c'est une ville très moche. Et ce que dit Tripty, c'est que dans ces circonstances, ben, on ne peut pas répondre par oui ou par non à la question « Est-ce que Pierre pense que Londres est une belle ville ?»« Pierre pense-t-il que Londres est une belle ville ?» On ne peut pas répondre oui ou non, parce que les deux réponses semblent en un sens valables. En un sens, Pierre pense cela. Il pense que c'est une belle ville quand il pense à Londres à travers le dossier mental « Londres ». Mais en un autre sens, il ne pense pas ça, parce qu'il ne pense pas que ce soit une belle ville du tout quand il y pense à travers son dossier London. Donc ça, c'est l'exemple. Et ce que je disais quand j'ai parlé de cet exemple, c'est que dans une situation normale, là, ce n'est vraiment pas du tout une situation normale, vous êtes d'accord? Mais dans une situation normale, c'est-à-dire quand le sujet dont on parle possède un dossier mental unique concernant une certaine entité, donc un seul dossier mental sur Londres, et bien dans ces cas-là, on peut rapporter les pensées de la personne, on peut l'interpréter, comme je disais, on peut rapporter les pensées de la personne au sujet de cette entité sans spécifier la façon dont le sujet se représente cette entité. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Il suffit de nommer l'entité en question et de dire que le sujet croit telle ou telle chose la concernant. Donc, avant que Pierre n'ait été transporté à Londres, quand il était en France, avec ses croyances, eh ben, on pouvait très bien dire de lui, il pense que Londres est une belle ville. Il n'y avait aucun problème. Cette façon d'interpréter Pierre était tout à fait correcte. C'est-à-dire qu'en disant ça, on lui attribuait effectivement une pensée qu'il avait effectivement. Mais après le transfert, quand Pierre dispose de deux manteaux, de ces manteaux distincts se rapportant à la même ville, on ne peut plus rapporter ses pensées, on ne peut plus l'interpréter en se contentant de nommer la ville en question, comme ici. On ne peut plus faire ça. Et si on le fait, c'est ce que dit Cryptie aussi, on aboutit à des paradoxes. On aboutit à des paradoxes, c'est-à-dire qu'on aboutit à la conclusion que Pierre pense que Londres est une belle ville et il ne pense pas que Londres est une belle ville. P et non P. Donc c'est pas ça qu'on veut, encore que, on pourrait dire que dans ce cas-là, il faudrait bien l'accepter. En tout cas, ce qui compte pour moi, c'est le contraste entre les deux types de cas, le cas normal et le cas précisément où la norme straussonienne est violée. Car regardez donc cette phrase « Pierre pense que Londres est une belle ville ». Quand l'attributeur ou l'interprète dit cela avant le transfert de Pierre à Londres, quand Pierre est simplement un Français qui pense ça de Londres, j'ai dit que cet énoncé rapporte correctement la pensée de Pierre. Et ce que ça veut dire, c'est que la complétive « Londres est une belle ville » ici, qu'utilise l'interprète, cette complétive exprime une pensée pour l'interprète qui utilise cette phrase pour attribuer les pensées, une pensée à Pierre, ben, cette phrase exprime une pensée qui est bien la pensée, qui est bien ce que pense Pierre, qui correspond bien à ce que pense Pierre. Donc il y a effectivement un partage, non pas de partage de pensée, parce que l'attributeur lui-même n'est pas forcé d'accepter que Londres est une belle ville, c'est encore une autre affaire. Mais au moins, comme je disais tout à l'heure, afin d'attribuer cette pensée à Pierre, l'interprète doit former la pensée en question et donc il doit disposer des concepts dont cette pensée est constituée. Et donc il doit y avoir un partage des concepts dans les cas où, comme ici, on réussit à attribuer à l'autre cette pensée. Ça veut dire que les concepts dont cette pensée est constituée, la personne à qui nous attribuons cette pensée possède ces concepts, mais nous-mêmes, qui lui attribuons la pensée, les possédons aussi. Et donc, il y a partage, ces concepts-là doivent être partagés par l'interprète et par la personne qui est interprétée. La pensée qu'exprime l'attributeur quand il énonce la complétive et la pensée qu'accepte effectivement Pierre sont, en un certain sens, au sens pertinent pour nous, la même pensée. Donc, dans un cas de ce genre, bien que, en apparence, la seule chose commune, c'est la référence. L'interprète se contente de faire référence à la ville de Londres en disant Londres et de dire que Pierre pense que Londres est une belle ville. Néanmoins, le mot Londres ici semble correspondre à un concept partagé par l'interprète et par la personne interprétée. Alors, quand je dis que ici, Londres est une belle ville, est une pensée partagée, c'est la pensée qu'il y a dans l'esprit de Pierre, et c'est une pensée que forme l'interprète quand il attribue la pensée à Pierre, donc c'est une pensée qui se trouve dans les deux esprits, en quelque sorte. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que, au sens littéral, la pensée se trouve dans les deux esprits, car encore une fois, les pensées dans l'esprit de différentes personnes ne sont pas les mêmes pensées à la base, ce sont des réalités psychologiques distinctes. Mais l'idée, c'est que cette relation d'équivalence qui doit être réalisée pour qu'on puisse parler de partage, de même pensée, ou de partage des pensées, ou de partage des concepts, cette relation d'équivalence, elle est en place dans un cas comme ça, dans un cas normal de ce genre. Donc je dirais que le mot Londres dans la bouche de l'attributeur, simplement parce qu'il fait référence à la ville de Londres et que c'est à cette ville que se rapporte la pensée de Pierre, ben ce mot exprime un concept partagé commun à Pierre et à l'attributeur. Quand bien même le partage se limite à cette idée que ces deux concepts dans l'esprit des deux font référence à la même chose, mais c'est tout ce qui est requis pour qu'il y ait partage. Ce concept partagé est une classe d'équivalence de dossiers mentaux, classe fondée sur le fait que les dossiers mentaux qui en sont membres, y compris le dossier mental de Pierre et celui de l'attributeur, font tous référence à Londres. Ça, c'est le sens de cette hypothèse référentialiste en matière de partage des concepts. La seule chose qui est requise pour le partage des concepts, c'est la coordination des dossiers mentaux de différents sujets. Et quand la norme stossonienne est respectée, la coordination consiste simplement dans le fait que les dossiers mentaux en question font référence à la même chose. Donc c'est ça l'idée de cette hypothèse, en quelque sorte, déflationniste, comme je disais. Alors, quand je faisais valoir que cette réponse consistant à dire que pour partager un concept dans une situation normale, il suffit d'avoir un concept portant sur la même chose, je disais que cette théorie semble évidemment non satisfaisante parce que on est à la recherche de l'idée de concept commun et que là, maintenant, on nous parle simplement de référence commune, de penser à la même chose, mais c'est pas, ça ne veut pas dire penser à la même chose de la même façon. Mais pourtant, je pense qu'il faut accepter cette théorie parce que c'est pas... J'ai souvent donné dans les cours précédents un argument pour dire qu'il y a, dans certaines situations, il y a partage de concepts. Et les arguments que j'ai donnés, notamment, c'est... j'ai dit que quand il y a désaccord, s'il y a, dans le cas social, j'ai parlé du cas intra-individuel, mais dans le cas social, si deux personnes sont en désaccord, ça veut dire que ces personnes, qu'il y a une certaine pensée, disons, qu'une personne accepte et que l'autre rejette. Une seule et même pensée que l'un accepte et l'autre rejette. Et ça veut dire que cette pensée étant la même pour les deux, les concepts qui en sont des constituants sont les mêmes aussi pour les deux. Donc, quand on a du désaccord, il doit y avoir du partage des concepts. C'était ça la conclusion. Et ça m'a servi comme une sorte de test pour dire qu'il y a des situations où on veut dire qu'il y a du partage de concepts parce qu'il y a la possibilité de désaccord. Or, justement, si vous revenez sur l'exemple de Pierre avant son transfert en Angleterre, dont Pierre pensait, à ce moment-là, on lui attribue la pensée que Pierre est une belle ville, que Londres est une belle ville. Et j'ai dit, c'est tout à fait correct, effectivement, Pierre, à ce moment-là, Pierre le français monolingue, il pense que Londres est une belle ville. Mais moi, qui lui attribue cette pensée, je peux très bien être en désaccord. Je peux très bien dire, oui, Pierre, il pense ça, il pense que Londres est une belle ville, mais on voit bien qu'il n'y est jamais allé. Parce qu'en fait, Londres, c'est très moche. Moi, je peux penser ça. Je peux être en désaccord avec Pierre. Donc, je lui attribue la pensée que Pierre est une belle ville. Pierre, oh, à nouveau, que Londres est une belle ville. Et je peux être en désaccord. Et si je suis en désaccord, ça veut dire que effectivement, il y a une pensée que lui accepte et que moi je rejette. Et les constituants de cette pensée doivent être déployés de part et d'autre, par celui qui accepte et par celui qui rejette. Et donc ça veut dire que nous partageons un certain concept de Londres, qui est un constituant de la pensée que Londres est une belle ville. Pensée que moi, l'interprète, je rejette, mais que j'attribue à Pierre et que lui accepte. Donc la notion de partage de concepts se manifeste dans différents phénomènes, l'interprétation, le désaccord, etc. Et on a tout ça ici. J'interprète Pierre en lui attribuant la pensée que Londres est une belle ville. Je ne pourrais pas faire ça si je ne pouvais pas moi-même déployer les concepts qui sont des constituants de la pensée que je lui attribue. Et je suis en désaccord avec lui. Je ne pourrais pas être en désaccord s'il n'y avait pas une seule et même pensée avec ses constituants conceptuels tels que lui l'accepte et moi je la rejette. Donc tout ça pointe dans la même direction, la direction de la conclusion selon laquelle il y a dans ces cas-là, qui sont ce que j'ai appelé les cas normaux parce que on n'est pas dans le cas d'un transfert de Pierre à Londres, etc., à son insu, mais là, on est dans le cas normal où Pierre a ses croyances et il possède un seul dossier mental sur Londres. Dans ce type de cas, il y a bien partage de concepts, mais le partage de concepts semble ne reposer sur rien d'autre que le fait que les deux parties, Pierre et puis son interprète, possèdent tous les deux un concept se rapportant à la ville de Londres. Alors évidemment, tout ça dépend du fait que la norme straussonienne soit respectée. Ce que je dis simplement, c'est que dans les cas normaux, où les gens possèdent un dossier mental pour une chose, et ben le partage des concepts, c'est très facile grâce au fait que les choses respectent cette norme. La norme permet la coordination des concepts d'une façon ultra simple. Il suffit d'avoir des concepts portant sur la même chose, c'est tout ce qui est requis, pour autant que la norme soit respectée. Et les difficultés, évidemment, ils viennent quand, quand la norme n'est pas respectée, c'est-à-dire par exemple les cas fréliens. Et dans ces cas-là, il doit y avoir une condition supplémentaire qui doit être remplie pour qu'on ait partage des concepts. Il ne suffit plus que les concepts portent sur la même chose, ça ne suffit plus. Ça marche seulement quand la norme est respectée. Donc ce que je pense, c'est que... Enfin, je ne sais pas très bien, en fait, parce que je n'ai pas vraiment approfondi ces questions, mais on pourrait penser que quand la norme n'est pas respectée, quand il y a plusieurs concepts en jeu portant sur la même chose, dans les cas fréliens par exemple, à ce moment-là, pour avoir le partage des concepts, il ne suffit pas d'avoir un concept portant sur la même chose qu'un concept de l'autre. Peut-être que ce qu'il faut en plus, c'est que ce concept soit comme celui de l'autre, non pas seulement relativement à la référence, ce que il porte, mais aussi relativement aux autres aspects. Les autres aspects, notamment, c'est le contenu du concept. On avait vu que dans un concept, il y a, j'avais distingué trois choses, le concept lui-même, la référence du concept, ce à quoi il se rapporte, et puis le contenu, c'est-à-dire la conception qui fait partie, le contenu du concept au sens de la conception, la représentation du référent que se fait le possesseur du concept. Donc peut-être que la condition supplémentaire, dans les cas où la norme Strawsonienne n'est pas respectée, la condition supplémentaire qui doit être en place, c'est que le contenu du concept soit suffisamment semblable dans les deux cas. En tout cas, c'est ce que suggère un exemple bien connu dû à Brian Law, dont je vais parler maintenant. C'est un exemple bien connu où précisément il y a co-référence, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui parlent, qui discutent, et ils pensent à la même chose, au même individu. Donc il y a la co-référence. Et néanmoins, leur communication échoue. Il y en a un qui... L'interlocuteur ne comprend pas le locuteur, alors même qu'il identifie le bon objet. Donc, c'est des cas où la co-référence ne suffit pas. Le fait de penser à la même chose ne suffit pas. Et ça ne suffit pas précisément parce que dans l'exemple de l'or, eh ben, il y a, au lieu d'avoir... la norme, non seulement la norme Strawsonienne n'est pas respectée, mais elle est ultra-violée, en quelque sorte. C'est un cas où il y a une sorte d'empilement de violations de la norme. Voilà l'exemple, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, j'imagine la plupart d'entre vous ne le connaissent pas, l'exemple. Donc, Laure imagine deux personnes, qu'il appelle Smith et Jones, qui sont en train de discuter, tout en regardant la télévision du coin de l'œil. Enfin, je présente son exemple, je n'ai pas vérifié tout à fait les détails à ma façon. Donc, ils discutent en regardant la télévision du coin de l'œil, Et ils ne se rendent pas compte que la personne qui est en train d'être interviewée à la télévision est une personne qu'ils voient dans le train tous les matins et dont ils viennent justement de parler. Donc vous imaginez, ils sont en train de discuter, ils viennent d'évoquer un type qu'ils voient dans le train tous les matins, et puis ils surveillent un peu la télé, parce que tout en parlant, ils regardent la télé, il y a un type qui est en train d'être interviewé à la télé, et il se trouve que ce type qui est en train d'être interviewé à la télé, c'est le type qu'ils voient tous les matins. Et ils ne s'en rendent pas compte que c'est le même. Donc, dans ce contexte-là, Smith dit « C'est un influenceur bien connu », dit-il à Jones. Et lui, il parle de la personne à la télé. Il fait un commentaire, ce type-là, c'est un influenceur bien connu. C'est ça qu'il dit à Jones. Mais Jones se méprend sur ce que veut dire Smith. Il croit que Smith parle de l'homme du train, l'homme qu'il voit dans le train chaque matin et dont ils viennent de parler. Donc lui, Smith, il pense que c'est de... Jones, pardon. Il pense que c'est de lui que parle Smith. Alors qu'en fait, Smith parle du type à la télé. Mais le problème, c'est que c'est la même personne. Donc il y a un sens où Jones a compris de qui on parlait, puisqu'il identifie la bonne personne comme étant la personne dont on parle. Mais il l'identifie sous le mauvais mode de présentation, en quelque sorte. Il croit qu'on lui parle de l'homme du train, alors que Smith est en train de parler de l'homme de la télévision. Mais il se trouve que c'est la même personne. Et ce que dit Laure, c'est que cet exemple montre que la réussite de la communication, le partage des pensées, tout ça, ça ne dépend pas de la référence, du fait que ce soit la même référence, parce que là, c'est la même référence. Et ça dépend précisément de l'autre aspect, le côté mode de présentation, qui est essentiel. Donc c'est ça la conclusion de Laure. Alors, dans un cas de ce genre, en fait, c'est un double cas fréliens. puisque chacun des interlocuteurs a deux dossiers mentaux distincts pour le même objet, sans s'en rendre compte. Donc Smith a son dossier mental homme de la télévision et son dossier mental homme du train. Il a ses deux dossiers mentaux, pour ce qui est en fait la même personne. Et John, c'est pareil, il a ses deux dossiers mentaux, homme de la télévision, homme du train. Et la communication échoue parce que Smith déploie son mode de présentation, son dossier mental homme de la télévision. Quand il dit « c'est un influenceur », c'est ça le dossier mental qui est actif dans son esprit. Et Jones, lui, active son dossier mental homme du train. Donc il n'y a pas de correspondance entre les deux, en quelque sorte. Et c'est pourquoi, intuitivement, on a l'impression que Jones ne comprend pas ce que lui dit Smith. Et ma conclusion à moi, c'est que dans ce cas-là, les dossiers mentaux respectifs de Smith et de Jones, ces deux dossiers mentaux qui sont activés, là, en rouge, ils ne sont pas ces deux dossiers mentaux coordonnés, ils ne sont pas dans la bonne classe d'équivalence, ils ne sont pas équivalents. Et donc, il n'y a pas de partage ici des pensées. Et malgré le fait que ce soit le même individu, parce que la condition, le fait que ce soit la même référence, ça marche dans les situations normales, quand il y a un dossier mental par objet, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on est dans une situation où la norme straussienne est violée, ça ne suffit plus. Il faut une condition supplémentaire. Alors, quelle est la condition supplémentaire? Peut-être que c'est simplement le fait que, effectivement, si on regarde au-delà de la référence, ben, ces dossiers mentaux, ils font référence à la même chose, mais leur contenu est très différent. Dans le contenu du dossier mental homme du train, ben, il y a les informations portant sur l'homme qui voit tous les matins dans le train, etc. Et dans dans le dossier mental homme de la télévision, il y a les informations concernant le gars qui sont en train de dont ils sont en train de voir l'interview. Et c'est des dossiers qui sont distincts au niveau du contenu. Et on peut penser que la co-référence n'étant pas suffisante dans les cas de ce type où la norme straussienne est violée, ce qui est requis, c'est une condition de convergence au niveau même du contenu, une condition qui n'est pas du tout satisfaite ici. Alors, pour que la co-référence cesse de suffire, le fait de faire référence à la même chose, que ça ne soit pas suffisant pour le partage des concepts, il faut que un ou moins des sujets en jeu viole la norme straussienne. Mais ce n'est pas du tout nécessaire que les deux le fassent. Là, dans le cas de Laure, c'est un cas vraiment spécial parce que les deux sujets dans un épisode de communication sont tous les deux dans un cas frédéen, ils violent tous les deux la norme straussienne. Mais vous avez des cas où un seul des sujets viole la norme straussienne. Notamment dans l'exemple de un autre des exemples fameux de Kripke, l'exemple de Paderewski. Donc, l'exemple de Paderewski, il faut imaginez un sujet que j'appellerai Marcel, qui possède deux dossiers mentaux distincts sur l'individu Paderewski. L'individu Paderewski a ceci de particulier que, comme je vous le disais quand j'ai introduit l'exemple, il a fait deux carrières très différentes. Ils sont une carrière comme musicien, une carrière de concertiste, et une carrière d'homme politique. Et les deux carrières étant très différentes, et pas au même moment non plus, etc., on pourrait très bien imaginer qu'un sujet qui a entendu parler de Paderewski, le musicien, il a entendu parler aussi de Paderewski, le politicien, il pourrait avoir pensé que c'était deux individus différents. Et il pourrait avoir donc deux dossiers mentaux différents, l'un sur Paderewski, le musicien, l'autre sur Paderewski, le politicien. Donc je suppose que Marcel est comme ça, il a deux dossiers mentaux. Et imaginons un autre sujet, Jean-Paul, qui lui sait très bien qu'il y a un seul Paderewski, donc il a un seul dossier mental. Eh bien, Jean-Paul ne peut pas déployer son dossier mental unique Paderewski pour interpréter Marcel. Il ne peut pas dire, par exemple, Marcel sait que Paderewski était musicien. Il ne peut pas dire ça dans cette situation. Parce que, en un sens, c'est vrai peut-être, mais en un sens, c'est faux. On a le même problème qu'on avait tout à l'heure avec le cas de Pierre. Le nom propre Paderewski dans la bouche de Jean-Paul est associé à son dossier mental non fracturé, comme on dit dans cette littérature, le dossier mental unique. Et ce dossier mental, il est co-référentiel avec les deux dossiers de Marcel. Il fait référence au même individu. Mais il n'est pas dans la relation d'équivalence pertinente avec eux, simplement parce que la norme straussienne n'est pas respectée. Donc le fait que ce soit le même individu, ça ne suffit pas. Et donc on ne peut pas, dans ce cas, dire il croit que Paderewski, il sait que Paderewski était musicien, et on ne peut pas le dire. On est exactement dans la même situation qu'avec le cas de Pierre, où on ne peut pas attribuer de façon simple la croyance que Londres est une belle ville, ou le refus de cette croyance. On ne peut pas dire il croit que Londres est une belle ville ou il ne croit pas que Londres est une belle ville, parce que les deux, en un sens c'est vrai, en un sens c'est faux dans le cas des deux réponses. Donc la situation, en fait, le schéma est exactement le même. Dans le cas de Pierre, on a également une fracturation, deux dossiers mentaux du côté de Pierre, le dossier mental Londres, le dossier mental Londres, le dossier mental London. Mais l'interprète, lui, il a un seul dossier mental. Et parce qu'il a un seul dossier mental, il ne peut pas déployer ce dossier mental pour rapporter les pensées de l'autre, parce qu'il n'y a pas la correspondance qu'il faut entre son dossier mental unique et les dossiers mentaux fracturés de l'autre. Puisque la bonne correspondance ne suffit pas pour qu'elle soit en place, qu'il y ait co-référence comme il y a ici. Il faut qu'il y ait une condition de plus. Quelle est la condition de plus dans un exemple comme Paderewski? Ce n'est pas complètement évident, mais je n'entrerai pas dans les détails. Je me contente de dire que la condition de co-référence dont j'ai dit qu'elle suffisait au partage conceptuel, ça suffit dans les cas où la norme straussienne est respectée. Dans les autres cas, ça ne suffit pas. Et la question se pose de savoir exactement quelles sont les conditions qui doivent être en place dans les autres cas. Mais maintenant, je voudrais revenir à cette norme straussienne qui est à la base de tout ça. Je pense que Strawson est complètement dans le vrai. C'était important de dégager cette norme. Et selon cette norme, comme je l'ai dit, quand vous découvrez une identité, vous découvrez que deux objets sont le même, ben vous devez fusionner vos dossiers. C'est ce que dit Strawson à propos de l'identité. Mais ça a été... C'est une idée qui a été contestée. Et donc, ce que je voudrais, je n'ai plus beaucoup de temps, donc je voudrais venir à ce point qui est très important, c'est l'idée qu'il y a deux conceptions rivales des dossiers mentaux qui s'affrontent ici, qui sont la conception de Strawson et une autre conception qui est devenue importante et qui rejette la norme straussienne. Alors, selon l'autre conception, lorsqu'un sujet se rend compte que deux dossiers mentaux distincts font référence à la même chose, il doit non pas fusionner les dossiers, comme dit Strawson, faire en sorte que la norme soit respectée, mais il doit faire autre chose, il doit lier ensemble les deux dossiers, tout en gardant deux dossiers, mais il doit les lier de façon à reconnaître que c'est le même objet, c'est-à-dire de façon à faire que l'information puisse circuler librement entre les différents dossiers. Donc, en gros, vous découvrez que Romain Gary et Ajar, Émile Ajar, c'est en fait la même personne, c'est le même écrivain, mais vous pouvez quand même garder vos deux dossiers distincts, parce qu'après tout, il y a des livres différents, etc. Donc il y a des raisons, les dossiers sont très structurés, vous pouvez les garder distincts, simplement il faut les connecter entre eux, de sorte que chaque fois que vous attribuez une propriété à Ajar, ça se traduit par le fait d'attribuer une propriété aussi à Gary. Donc il y a une opération, disons, de non pas de fusion de dossiers, mais de liaison de dossiers qu'il faut décrire. Et on a besoin de cette opération parce que, alors que la norme straussienne nous dit qu'on ne doit pas avoir deux dossiers sur le même objet, il faut reconnaître, suivant cette autre conception que je présente maintenant, il faut reconnaître que parfois c'est très légitime d'avoir plusieurs dossiers sur le même objet. C'est très légitime dans plein de situations. Parce que c'est légitime dans les cas où il y a des personas, des personnages différents, comme dans le cas de Ajar, Gary ou Superman, Clark Kent. C'est très difficile d'éviter, même si on sait que c'est le même individu, d'avoir des dossiers mentaux distincts. Mais surtout, il y a des cas où des dossiers mentaux distincts traduisent des perspectives différentes sur le même objet et des perspectives qui sont tout aussi légitimes l'une que l'autre. Et comme exemple, je voudrais vous donner la salle 5 du Collège de France, où nous sommes. Donc, je peux faire référence à cette salle de plusieurs façons. Je peux y penser ou en parler comme la salle 5 du Collège de France. Et je peux très bien avoir un dossier mental sur la salle 5 du Collège de France. J'ai un dossier mental sur chacune des salles de cours du Collège de France. Mais je peux aussi penser à la salle en question et y faire référence comme étant ici, cette salle. Quand j'y suis, en tout cas, comme maintenant, je peux penser à cette salle comme cette salle, la salle où je suis. Et quand je fais référence à la salle en question comme cette salle, la salle où nous sommes, ben je me la représente, la salle, à travers ma perception de la salle et de ce qui s'y passe. Si je pense ici, je pense à la salle à travers ma perception de ce qui se passe. Alors que quand je pense à la même salle comme la salle sainte du Collège de France, ben je me la représente à travers un dossier mental où j'ai emmagasiné toutes sortes d'informations dont je dispose concernant la salle en question. Ça inclut les informations perceptives dont j'ai pu disposer puisque je connais cette salle, etc. Mais ça inclut aussi toutes sortes d'autres informations que j'ai. Et ça n'implique pas nécessairement une perspective en quelque sorte de l'intérieur. Donc en tout cas, moi qui me trouve dans cette salle présentement et qui perçoit ce qui s'y passe, j'ai deux façons de me représenter la salle en question. Je peux me la représenter comme ici, à travers cette perception, ou je peux me la représenter simplement comme la salle sainte du Collège de France, à travers ce riche dossier mental. Et selon une théorie que j'ai moi-même défendue, longtemps en tout cas, il y a deux types de concepts différents qui correspondent à ces deux perspectives. Quand je pense à cette salle ou à ici, je déploie un concept indexical, c'est-à-dire un dossier mental, c'est toujours un dossier mental, mais c'est un dossier mental qui est fondé sur une certaine relation contextuelle au référent. Donc là, la relation contextuelle, on est en train de penser, c'est un lieu, une salle, un lieu qu'on pense, et la relation au lieu, c'est qu'on y est. Et il y a un dossier mental spécifique ici que nous déployons quand nous pensons au lieu où nous sommes. Et donc, c'est un dossier qui est indexical, en ce sens qu'il dépend de cette relation au lieu. Il y a une référence, mais on doit avoir une certaine relation au référent pour penser à travers ce dossier mental au lieu en question. Et d'autre part, c'est un dossier qui est provisoire, parce qu'on ne peut penser à la salle en question comme ici que quand on se trouve dans la salle en question. Donc, c'est un dossier mental qu'on peut ouvrir le temps qu'on est dans la bonne relation avec le référent, le temps qu'on est dans la salle, on peut ouvrir, déployer ce dossier mental-là, mais dès qu'on quitte la salle, ben on ne peut plus. Et il faudra réouvrir un dossier ici à propos de l'endroit où on se trouvera ensuite, etc. Donc, la suggestion était qu'il y a ces dossiers mentaux temporaires fondés sur des relations contextuelles au référent qui nous permettent de penser aux objets. Et un autre exemple, c'est un dossier démonstratif, comme ce gobelet. Je peux penser ce gobelet, la référence c'est le gobelet qui est là devant moi, c'est à lui que je pense. Mais je pense à lui à travers une relation contextuelle particulière, le fait qu'il est devant moi, que je suis en train de le voir, de le percevoir, de porter mon attention sur lui. Pareil pour cet ordinateur. Il y a bien un dossier mental ici, mais c'est un dossier mental temporaire, de courte durée, fondé sur une relation particulière, une relation contextuelle particulière. Alors, on a donc ces deux types de dossiers mentaux, un dossier mental temporaire, indexical, fondé sur une relation contextuelle, et un dossier mental beaucoup plus général, indépendant d'une relation particulière à l'objet, comme le dossier mental, la salle sainte du Collège de France. Ils n'ont pas les mêmes conditions de déploiement, parce qu'il y a un des dossiers qu'on ne peut déployer que quand on est dans la bonne relation à l'objet, donc il n'est pas toujours disponible, il l'est parfois. Et donc, on a ces deux possibilités, et précisément parce qu'il y a ce genre de diversité parmi nos dossiers mentaux, on a plusieurs perspectives possibles. Et il faut admettre la légitimité de ces différents types de dossiers mentaux. Évidemment, quand nous découvrons une identité, quand nous découvrons que ici c'est la salle 5, ou que cette salle, c'est la salle sainte. Donc, quand nous, dans la situation dont parle Strawson, quand nous réalisons que deux choses sont la même, que la salle sainte du Collège de France, dont j'ai entendu parler, par exemple, et cette salle, en fait, c'est la même chose, ben, dans un cas de ce genre, suivant la théorie rivale dont je parlais, la théorie non-straussonienne, quand on découvre qu'il y a deux dossiers mentaux se rapportent à la même chose, comme ici, eh bien, on est dans une situation où on a effectivement deux dossiers mentaux distincts. Il se peut très bien qu'on ait une sorte de cas frélien, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que c'est le même référent et qu'on attribue des propriétés contradictoires. Par exemple, je peux avoir une représentation de la salle sainte comme ne possédant pas de fenêtre, mais ici, je vois bien qu'il y a une fenêtre. Mais si je me rends compte que c'est le même lieu, à ce moment-là, suivant la théorie dont je vous parle, on lit, il y a cette opération de liaison des deux dossiers, on lit les deux dossiers parce qu'on reconnaît que c'est le même objet, et à partir de là, l'information peut circuler librement, et du coup, l'incohérence apparaît, le fait que, et on va devoir faire un peu le ménage et rectifier l'information qu'on avait, une information putative selon laquelle la salle sainte ne possède pas de fenêtre, on va devoir s'en débarrasser. Donc ça, c'est cette conception rivale de la conception straussonienne et qui est une conception que j'ai moi-même défendue, comme je disais, dans mon livre de 2012 sur les dossiers mentaux, où je proposais un modèle indexical, comme je disais, pour les dossiers mentaux, avec notamment l'existence d'une catégorie spéciale de dossiers mentaux indexicaux, qui sont des dossiers mentaux temporaires fondés sur des relations contextuelles, plus une sorte de généralisation à l'idée que même les autres dossiers mentaux sont indexicaux en un certain sens, qui permet une sorte de modèle généralisé. Mais, donc ça c'était ma position à l'époque, mais la distinction que j'ai faite dans le cours de cette année entre le concept lui-même, le dossier mince, dossier mental mince comme j'ai dit, et les différentes phases temporelles du concept, qui est tantôt associé à telle conception et tantôt à telle autre, ben, cette distinction plutôt, fait à mon avis pencher la balance du côté de la norme straussonienne et du point de vue défendu par Strawson. Et donc moi-même, je suis dans une phase de changement d'avis, en quelque sorte, maintenant je suis du côté de Strawson et j'essaie de comprendre, disons, les implications de sa position. Mais je ne suis pas le seul à faire ça. Dans David Papineau, j'ai dit tout à l'heure qu'il est venu en novembre et qu'il nous a fait une série de conférences très intéressantes sur ces questions là dont je vous parle, très largement sur ces questions. Et lui-même, ce qu'il dit, il défend tout à fait cette idée straussonienne, lui-même ce qu'il dit, c'est qu'un concept démonstratif comme cette salle, un concept indexical comme cette salle, ben, ce n'est pas vraiment un concept indexical, selon lui. Selon lui, c'est simplement la phase initiale d'un dossier mental que l'on ouvre quand on se trouve en contact perceptif avec une entité, qui peut être un objet, un lieu, quoi que ce soit d'autre. Donc, il y a un objet, on rencontre un objet pour la première fois, on y pense comme cet objet, ce chat sans queue, cette salle. Mais, selon Papineau, et contrairement à ce qu'affirme le modèle indexical, le dossier mental en question, ce n'est pas un dossier mental temporaire qui disparaît à la fin de la rencontre avec l'objet. Ce n'est pas mon dossier mental sur cette salle, n'est pas un dossier qui va disparaître quand je vais quitter la salle en question. Selon lui, le dossier mental persiste en mémoire et c'est lui qu'on active quand on se souvient de l'objet. C'est encore lui qu'on réactive quand on rencontre l'objet à nouveau, quand c'est un objet ou dans une salle, si je reviens à nouveau dans la salle. Donc l'idée de Papineau, c'est que vous vous trouvez pour la première fois, disons, dans la salle 5, vous pensez cette salle, vous avez une certaine représentation perceptive, etc. Mais ce dossier mental que vous avez ouvert, à propos de la salle où vous vous trouvez, il reste en mémoire, il est accessible dans le souvenir, et ensuite, quand vous allez obtenir d'autres informations sur la salle en question, il va grossir, ce dossier mental, et il va être réactivé aussi quand vous allez vous retrouver à nouveau dans cette salle. Et c'est toujours le même dossier mental. Donc ce dossier mental commence sa carrière en quelque sorte comme dossier mental fondé sur une certaine relation particulière au référent. Mais en tant que dossier mince, il n'est pas constitutivement lié à la relation informationnelle de type perceptif qui est censé caractériser les dossiers démonstratifs comme le dossier sur ce gobelet dont je vous parlais. Penser à ce gobelet, c'est à travers le fait que je suis en train de le regarder. C'est un mode de présentation qui est lié à cette relation contextuelle tout à fait particulière à l'objet. Mais selon Papineau, en fait, il n'y a pas vraiment de concept démonstratif. C'est une phase de mon concept sur ce gobelet. En ce moment, j'ai accès au gobelet par la perception de cette façon-là. Mais je peux très bien continuer à penser au gobelet en question après, quand je ne le verrai plus. Je peux le garder en mémoire, je peux le reconnaître plus tard, éventuellement, il y a peu de chance, mais enfin bon, dans certains cas au moins, ça pourrait se passer, etc. Donc, les dossiers mentaux ne sont pas tributaires des relations contextuelles particulières qui caractérisent seulement un épisode spécifique, c'est-à-dire un dossier épais, comme je disais, le dossier à un moment donné. Oui, à ce moment-là, il implique certaines relations au référent, éventuellement, mais le dossier mental en tant que tel, il persiste dans la vie mentale du sujet, indépendamment de ce type de contingence. Alors, il est tout à fait possible, évidemment, et Papineau ne le nie aucunement, il est tout à fait possible d'avoir deux dossiers mentaux distincts, un dossier de type cette salle et un dossier de type la salle sainte du Collège de France, simultanément. On peut avoir un cas frélien, je peux ne pas me rendre compte, comme dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, que cette salle, c'est la salle 5. Et il est tout à fait possible que je me retrouve à nouveau dans la salle 5, mais sans cette fois la reconnaître. Donc il y a toutes ces possibilités d'activer plusieurs dossiers mentaux simultanément, à propos du même objet, donc il ne s'agit pas de le nier, mais la question c'est plutôt que dès que le sujet apprend l'identité de la salle où il se trouve, ou dès qu'il la reconnaît, dès qu'il n'y a plus de confusion, à ce moment-là, il se représente celle-ci à travers un dossier unique. On n'a pas besoin, sauf dans les cas où on fait en quelque sorte une erreur, on ne se rend pas compte que c'est le même objet, on n'a pas besoin de plusieurs dossiers distincts. Quand on se rend compte que c'est le même objet, on fusionne, effectivement. Et d'ailleurs, il y a une sorte d'intuition, enfin, en tout cas, moi, j'ai fortement l'intuition que, dans les cas de reconnaissance, supposez que vous voyez quelqu'un qui s'avance au loin, vous demandez qui est ce type. Vous pensez à la personne que vous voyez comme ce type. Vous avez une sorte de représentation démonstrative fondée sur le fait que vous le voyez au loin. Mais, à partir du moment où vous reconnaissez que c'est Marcel, à partir du moment où vous reconnaissez que c'est Marcel, vous arrêtez d'y penser comme ce type. Vous y pensez comme Marcel. Il n'y a pas cette coexistence de deux dossiers mentaux. À partir du moment où il y a l'acte de reconnaissance, il n'y en a plus qu'un. Donc je pense que tout ça, ça va tout à fait dans le sens de Strawson. Et maintenant, il faut que je me dépêche un peu pour signaler que le thème de la dynamique cognitive qui était affiché dans mon cours, se pose dans la littérature à partir notamment de l'exemple des concepts indexicaux. Car les gens se demandent justement si on a des concepts indexicaux qui sont individualisés de façon très fine par le type de relation contextuelle qu'on a vis-à-vis du référent. Un exemple étant, s'il y a une perception d'une pomme, par exemple, est-ce qu'on a un concept qui correspond à la relation perceptive pendant que je vois la pomme, quand je pense cette pomme, et un autre concept qui correspond à ce qui se passe quand je m'en souviens, un peu après, ce n'est pas tout à fait la même relation, et une troisième relation, un troisième concept qui correspond au cas où je reconnais la pomme, auquel cas ma relation à la pomme s'est fondée à la fois sur le souvenir et sur la perception. Est-ce qu'on a des concepts distincts, ou est-ce que c'est le même concept qui persiste ? Ce qui est la position de Papineau. Alors, une des raisons qu'on a de penser qu'il y a des concepts distincts, c'est que, effectivement, on peut avoir des cas fréliens. On peut penser cette pomme, et ça c'est le souvenir, était une reine des rainettes, mais cette pomme qu'on voit là devant nous n'est pas une reine des rainettes, on peut penser ça, et ça peut être la même pomme qu'on voit et dont on se souvient. Donc là, ça montre qu'on a, dans ce cas-là, deux dossiers mentaux. Et il n'y a pas de doute que dans un cas de ce genre, on a deux dossiers mentaux. Mais ça ne veut pas dire que dans un cas ordinaire, quand vous avez vu une pomme dans le passé, et que maintenant vous vous souvenez de cette pomme, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est la même, est-ce que c'est le même dossier mental, ou est-ce que c'est deux dossiers mentaux différents ? Sur ce schéma, vous voyez que... Oui, je ne vais pas entrer dans l'analyse de ce schéma. En tout cas, ce type d'exemple conduit les gens qui se posent la question de la dynamique cognitive à soulever la difficulté de savoir si, pour donner un exemple qu'ils utilisent souvent, quand vous pensez à un certain jour comme aujourd'hui, et que le lendemain, vous pensez au même jour comme étant hier, est-ce que c'est le même concept qui a survécu, en quelque sorte en mémoire, que vous exprimez différemment, parce que votre relation contextuelle n'est pas la même, vous dites aujourd'hui dans un cas, hier dans l'autre, mais c'est le même concept, ou est-ce qu'il y a deux concepts différents ? Donc ça, c'est exactement la même question qui se pose, c'est toujours le même débat entre ces deux conceptions, disons la conception straussonienne et la conception indexicale. Et tout un ensemble d'auteurs ont défendu quelque chose qui ressemble plutôt à la conception straussonienne, c'est l'idée que c'est le même concept qui s'exprime tantôt comme aujourd'hui et tantôt comme hier, mais ce n'est pas des concepts différents. Alors, j'en ai assez dit sur cette question aujourd'hui, mais je voudrais simplement finir en faisant remarquer qu'il y a un projet de recherche qui commence au Collège de France, financé par le Conseil européen de la science, exactement sur ces questions de savoir... ces questions d'individualisation des concepts et la question de savoir s'il y a des concepts indexicaux ou pas dans le type d'exemple dont je vous ai parlé. Et sur le site du Collège de France, il y avait une description effectivement du projet de recherche qui mettait cela tout à fait, ces questions tout à fait au premier plan. Mais aujourd'hui, je vous en ai dit assez, et non seulement aujourd'hui, mais cette année, car c'est le dernier cours de l'année, et je vous donne rendez-vous dans... une dizaine de minutes pour l'exposé que va nous faire Anna Marmadoro. Et en attendant, je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.